La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invitée de la bibliothèque de Radio-Orient est Nadira Naït Ouyahia pour Kaïssa à la recherche du père perdu chez Orient Éditions. Bonjour.
Bonjour Loïc, merci de m'avoir invitée à votre émission.
J'ai envie de commencer cette émission par une citation de votre roman. Pire que la mort ou la maladie, l'absence vous pèse le jour et vous torture la nuit. On peut soigner un malade, pleurer un mort, puis l'enterrer. Mais comment guérir de l'abandon? Que faire de l'absent? L'oublier, le plaindre ou le détester? Voilà à quoi ressemblait le cruel dilemme de Kaïssa. Alors l'héroïne de votre très beau roman, Kaïssa, est une jeune fille confrontée à une énigme. Qu'est-il arrivé à son père qui a disparu un matin de l'été de 1991. Avec une écriture poétique et imagée, vous nous racontez comment cette jeune fille ressent au plus profond d'elle-même l'absence de son père. Nous sommes en Algérie, votre pays, précisément dans un village situé sur les hauteurs, en Kabylie. Et face à ce manque, elle tente de rassembler les morceaux du puzzle en écoutant les conversations des adultes. Qui est ce père? Est-il en train de revenir après des années d'absence? Ma première question, Nadira Naït Ouyahia, comment est né ce livre?
C'est une histoire qui m'habite depuis très longtemps, depuis déjà la première fois que j'ai lu une nouvelle d'André Gide, Le retour de l'enfant prodigue, qui s'est lui inspiré d'un récit de la Bible. Il a dépouillé ce récit de son sens biblique pour en faire une critique de la famille traditionnelle. Donc il est question dans sa nouvelle du libre arbitre, de la liberté individuelle. Mais je me suis servie de ce même récit pour raconter ma propre histoire et aborder d'autres thèmes qui ne sont pas des thèmes nouveaux puisqu'ils ont déjà été abordés dans la littérature. Des thèmes comme l'absence, le manque, le statut de la femme dans une société patriarcale, etc.
C'est difficile pour Kaïssa, votre héroïne, de se construire sans savoir pourquoi son père est parti et s'il va revenir un jour. Elle interroge tout le monde, on l'a dit, chacun avec sa version de l'histoire. Louisa, la mère de Kaïssa, aurait dû en fait épouser un autre homme, son cousin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce mariage qui avait été prévu dès sa naissance et qui finalement ne s'est pas concrétisé?
D'accord, il est connu dans la société kabyle, en tout cas avant, hein, jusqu'à une époque récente, que les femmes souvent n'avaient pas trop le choix quand il s'agit de mariage. Parfois, souvent c'était des mariages arrangés. Et Louisa, la mère de Kaïssa, comme beaucoup de femmes en Kabylie, était mariée déjà dès la naissance à son cousin. Elle était promise à son cousin. Mais voilà que le sort avait décidé autrement et que ses fiançailles avaient été annulées. Et donc, on lui trouva rapidement un autre conjoint et donc elle s'est remariée. Et elle s'est retrouvée mariée avec cet homme, le père de Kaïssa, qui avait disparu quelques années après la naissance des enfants.
Alors, c'est un père qu'on ne nomme pas, on l'appelle le prodigue.
Justement, j'ai choisi de ne pas donner de prénom au père de Kaïssa parce que dans notre société, c'est une sorte de sujet tabou. Dès que quelqu'un disparaît, qu'il ne donne pas de nouvelles, surtout quand on n'a pas vraiment de nouvelles de lui, on le surnomme comme ça le prodigue. C'est-à-dire, il va jusqu'à perdre jusqu'à son propre prénom.
Alors, Louisa, la mère, ne reste pas passive face à la disparition de son mari, mais ses options sont limitées. Elle demande à un moment donné l'aide de la police. Elle va voir une voyante alors qu'elle a bien conscience que cette femme ne lui dira rien d'utile. Les gens du village lui rapportent des informations invérifiables et contradictoires. En fait, elle est complètement démunie, cette femme.
Oui, parce que dans sa position, déjà la famille dans ce genre de situation, elle est confrontée à la société déjà qui juge et il y a un sentiment de culpabilité après. Et Louisa, à ce niveau, elle essaye de trouver une solution, comme vous avez dit, de demander l'aide de la police pour lancer un avis de recherche, voir une voyante, etc. Mais ça n'avait rien donné, au fait. Mais c'est difficile, dans sa situation, de prendre en charge ses enfants et d'affronter en plus le regard des autres, la société.
Alors précisément, le regard des autres compte beaucoup. Dans ce milieu rural, le départ du mari sans explication suscite des questions dérangeantes de la part des autres femmes.
Exactement.
C'est raconté avec pudeur, mais vous décrivez tout de même la méchanceté des gens.
Oui, oui.
Alors qu'elle ne sait rien, ne comprend pas. Sa mère, la mère de Kaïssa, a un statut social difficile, ni veuve, ni divorcée.
Voilà.
Vous écrivez que c'est une vie suspendue.
Suspendue, je me suis inspirée d'une sorte de proverbe kabyle pour écrire ça en français. Au fait, quand une femme chez nous est toujours mariée, elle n'est pas divorcée, mais le mari n'est pas là. Elle n'est ni veuve, c'est-à-dire on ne sait pas si le mari est mort et il ne vit pas dans la famille. Donc, sa vie, elle est suspendue. Voilà.
Alors, la vie de l'épouse est suspendue, mais aussi la vie de la fille.
Elle
se construit dans cette absence.
Oui, elle est tourmentée par cette absence. Et comme elle ne sait pas encore poser des questions aux adultes, elle se pose des questions. Elle tente de comprendre à travers en écoutant les conversations des adultes. Mais ça reste quand même... difficile pour son âge de comprendre certaines choses.
Nadira Naït Ouyahia, vous nous avez dit que ce roman avait une inspiration autobiographique. Dans ce livre, vous racontez le passage de l'héroïne de l'espoir à la résignation, à l'acceptation, sans anticiper sur la toute fin du livre qui est magnifique, très émouvante et qui nous donne la clé de ce roman. Est-ce que c'est un livre qui vous permet à vous de faire votre deuil d'une certaine histoire douloureuse ?
Oui, on peut penser que c'est un livre du deuil, que c'est une réparation, mais c'est la grande question, est-ce que la littérature elle nous aide à réparer ? Mais en tout cas, c'est une consolation, c'est-à-dire le fait de pouvoir déjà aborder ce sujet, de pouvoir raconter, en parler, c'est déjà important.
Alors, vous citez un adage, « La mort est la sœur de l'exil ». Qu'évoque cette phrase pour vous, qui est citée dans le
là
livre ?
Là aussi, je me suis inspirée d'un adage, un vieil adage kabyle, « L'arbed wutmesn elmouth », c'est-à-dire que l'exil, parfois, peut être plus dur que la mort à surmonter. Parce que quand quelqu'un meurt, on fait le deuil et on se fait une raison et on oublie avec le temps. Mais quand quelqu'un disparaît comme ça et quand on ne sait pas si on doit le pleurer ou le plaindre ou l'accuser, ça reste encore plus dur pour la famille de vivre ça.
Alors c'est un livre qui questionne la responsabilité des hommes qui disparaissent, qui abandonnent leur famille sans dire adieu, sans explication. C'est une situation cruelle pour les femmes qui restent, la grand-mère, l'épouse, la fille. Est-ce que c'est une histoire exceptionnelle dans les villages de Kabylie que vous connaissez ou bien au contraire, c'est une histoire tristement banale ?
Je pense que ce n'est pas un cas unique. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont déjà vécu ce genre de situation. J'en connais déjà une. Et j'espère justement que des lecteurs trouveront quelque chose dans ce roman en rapport avec leur propre histoire. En tout cas, les gens qui ont vécu une chose pareille.
Et vous utilisez une belle image dans le roman. La jeune fille se demande si Dieu a caché les clés comme sa grand-mère à cacher les clés de sa malle.
Oui, c'est tout l'intérêt de raconter les choses à travers les yeux d'un enfant. Parce que on va déjà, à travers les yeux de l'enfant, on va simplifier, on va dédramatiser ce qui semblerait a priori dramatique. Et un enfant, quand on lui dit sa grand-mère cache les clés pour qu'on ne trouve pas certaines choses, pour qu'on ne découvre pas certaines choses, alors elle se demande si Dieu aussi, il a des raisons de cacher certaines choses pour qu'on ne découvre pas toute la vérité. Voilà.
Alors, votre roman nous plonge dans un monde qui a gardé ses traditions. Vous évoquez des chants que la jeune fille a entendus dans les oliveraies, pendant les fêtes et les veillées, des chants que vous citez, l'hymne à la pluie ou encore le chant du royaume perdu. Vous évoquez aussi les contes que racontent les uns et les autres. C'est une Kabylie traditionnelle qui existe encore? Ou bien c'est un monde différent de celui du roman?
Oui, je pense que ça existe encore. Moi, j'ai vécu, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et la poésie était partout déjà. Même les femmes, quand elles n'arrivaient pas à s'exprimer, à dire les choses clairement, elles s'exprimaient en poésie. Elles avaient le droit de tout dire à travers la poésie, à travers les contes qu'elles racontaient aussi. Et ces contes, ils sont encore vivants. Hein. On les transmet toujours dans les familles, je pense, malgré la nouvelle technologie et les réseaux sociaux. Mais je pense que dans les villages kabyles, cet univers continue encore d'exister.
Et si Kaïssa est confrontée à un vide, à un manque, elle grandit pourtant dans un monde qui valorise la transmission dont vous venez de parler.
Oui,
une transmission qui passe, écrivez-vous, par le lait maternel. Et il y a un personnage attachant, c'est celui de la grand-mère, Séti, en Kabyle. Vous pouvez nous la présenter?
Oui, la grand-mère était une femme très forte, une femme instruite, contrairement à beaucoup de femmes de sa génération, puisqu'elle avait fait une école française dans les années 30 à 40. C'est une femme qui maîtrisait la langue française, alors que ce n'était pas courant dans la société kabyle, et qui avait du caractère et aussi le sens de l'humour. Et c'est un personnage important dans la vie de Kaïssa, puisqu'elle lui avait appris beaucoup de choses. Et c'était une sorte de modèle aussi pour elle.
Et que représente, cher Morand, le saint que vénère la grand-mère?
Le saint que vénère la grand-mère et que vénèrent toutes les femmes de la région jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas changé. En fait, c'est un grand philosophe kabyle et poète aussi. Et que les femmes vénèrent pour sa sagesse et son enseignement qu'elle continue de transmettre même après sa mort.
Alors les femmes du village sont tisseuses de mère en fille. Vous-même, vous appartenez à une lignée de tisseuses. Quel rôle joue cet artisanat dans votre roman?
Oui, je suis fière aussi d'avoir grandi dans cette famille de tisseuses et je me rends compte maintenant que de la chance que j'ai eue de vivre avec elles et de les côtoyer, parce que ce sont des femmes merveilleuses qui se battent et ce sont des créatrices de beauté qui sont capables dans les moments les plus durs et les plus sombres de créer de très belles choses. Et voilà, elles tissent des tapis. En fait, mon village est connu pour un tissage spécifique, le tissage des Haïti Hichem, qui est mondialement connu. Et ma mère a dû apprendre à tisser avec ma grand-mère. Donc, elle a fait ça pendant des années. Et ma grand-mère, justement, ce modèle dont je vous parlais, a fait 70 ans de tissage.
Alors, c'est un très beau roman, vraiment. Ce qui m'a touché, c'est notamment la langue que vous utilisez. Il y a de la poésie, il y a beaucoup de beauté à travers la description des paysages, de la vie simple des villageois. Vous êtes également poétesse. Avant ce premier roman, vous avez publié des poèmes.
J'ai publié déjà des poèmes. J'ai écrit de la poésie dans les deux langues, en kabyle et en français. Et j'ai même publié de la poésie. Ça fait 3 ans que je publie dans une revue française, La Vie Multiple, dirigée par Daniel Malbranque. C'est une revue du Bergerac. Et j'ai publié un recueil de poésie en bilingue aussi aux éditions MTD en 2022 qui s'appelle L'Éclipse Udmenwegur.
Quels sont les écrivains qui ont été vos modèles dans l'écriture de ce livre?
Oui, mes modèles, je pense tout de suite à Mouloud Feraoun qui lui a déjà fait son propre récit comme moi, je pense, en écrivant Le Fils du Pauvre. Je pense aussi à mes premières lectures, Mouloud Mamri, André Gide, il y en a beaucoup en fait. Daoussam Rouche également comme femme kabyle, première romancière kabyle. C'est une femme qui nous inspire toutes quand on commence, quand on vient dans ce domaine écrire un premier roman. C'est une femme que j'ai beaucoup lue en tout cas.
Dernière question, Nadira Naït Ouyahia. Que vous a apporté l'écriture de ce livre? Tout à l'heure, vous avez parlé de consolation, Est-ce que c'est aussi une forme d'apaisement, puisqu'à travers ce roman, vous avez pu peut-être refermer une porte ?
Oui, c'est une forme d'apaisement, comme vous le dites, et ça me permet d'en finir avec l'enfance, comme dirait Jean Sénac.
Merci Nadira Naït Ouyahia, vous êtes l'autrice de ce très beau premier roman.
Merci beaucoup.
Kaïssa à la recherche du père perdu chez Orient Éditions, et je le recommande bien évidemment à tous les auditeurs de la bibliothèque.
Merci Radio Orient de nous avoir ouvert sa porte pour faire cette émission. Merci beaucoup.
Merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.